On va justement continuer dans notre étude de Luc. Il se trouve qu'on est en plein dans le vif du sujet. Jésus monte à Jérusalem pour y être crucifié. Et on arrive au chapitre 22. Si vous voulez vous tourner avec moi, dans le chapitre 22 de l'évangile de Luc, page 97 dans la Bible à la colombe. La fête des pains sans levain, appelée la Pâque, approchait. Les principaux sacrificateurs et les scribes cherchaient comment faire mourir Jésus, car ils craignaient le peuple. Or Satan entra dans Judas, appelé Iscariote, qui était du nombre des 12, et Judas alla s'entendre avec les principaux sacrificateurs et les chefs des gardes sur la manière de leur livrer. Ils furent dans la joie et convinrent de lui donner de l'argent. Il accepta et se mit à chercher une occasion favorable pour leur livrer Jésus à l'insu de la foule. La fête des pains sans levain, qui commémorait la libération des Juifs de l'esclavage en Égypte, avec Moïse comme libérateur ou comme chef de leur groupe. C'était une des trois fêtes auxquelles tous les hommes d'Israël devaient participer. Les autres fêtes, c'était la fête des semaines, aussi appelée la Pentecôte, et puis la fête des tabernacles ou la fête des huttes. Et pour chacune de ces fêtes, il y avait beaucoup de personnes qui se déplaçaient pour aller à Jérusalem. Et c'était, encore une fois, l'historien Flavius Joseph, l'historien juif, nous dit qu'il y avait à peu près 225 000 brebis égorgées. Et on compte qu'une brebis était utilisée pour nourrir une famille ou un groupe de personnes, d'une dizaine de personnes. Donc il y avait près de 2 millions, ou plus, un peu plus, de 2 millions de personnes qui convergeaient vers Jérusalem. C'était une grande fête, c'était la fête de la Pâque. Alors pour ceux qui s'en souviennent et pour ceux qui ne le connaissent pas, la Pâque c'était... Aujourd'hui, on pourrait traduire la fête du passe-dessus. Passe-dessus. En anglais, ça s'appelle d'ailleurs la fête de Passover, passer dessus. Et ça fait référence à ce dernier fléau lorsque Dieu voulait que Pharaon libère son peuple. Il avait demandé au Pharaon de... Moïse était allé voir le Pharaon en disant « Laisse rentrer mon peuple en terre promise ». Le Pharaon acceptait, puis changeait d'avis parce qu'il avait là une main-d'œuvre à bon marché qu'il utilisait pour construire les grandes merveilles de l'Égypte, les pyramides et autres. Et Dieu avait envoyé 9 fléaux, ce qu'on appelle aussi des plaies. Première plaie, c'était l'eau du Nil changée en sang. Ensuite, une infestation de grenouilles. Une petite grenouille, c'est mignon, mais une grenouille qui est morte et qui empeste, ça devient rapidement quelque chose de détestable. Troisième plaie, c'était les moustiques. Et on sait combien il y a quelques années, on a découvert les moustiques tigres. Et c'est des moustiques qui volent de façon très bizarre. On ne peut pas facilement les suivre et essayer de les écraser. Au point que je sais qu'on n'a pas pu utiliser notre jardin pendant l'été, pendant plusieurs années. C'était un peu moins mauvais l'an dernier. La quatrième plaie, ça a été des mouches venimeuses. Il y a eu ensuite une peste, une maladie du bétail. Il y a eu des ulcères, des éruptions de pustules sur les hommes et sur les bêtes. Puis un septième plaie, ça a été la grêle. Une huitième plaie, ça a été les sauterelles. Là aussi, c'est mignon, une sauterelle, mais s'il y en a des tonnes, qui mange toutes les récoltes, ça devient un fléau. La neuvième plaie, ça a été les ténèbres. À chaque fois, encore une fois, le pharaon disait « Bon, c'est bon, je partais », puis il changeait d'avis au dernier moment. Et finalement, l'Éternel avait dit à Moïse « Je vais envoyer une dernière plaie au pharaon et à l'Égypte, et après, il va vous laisser partir. » Et cette plaie, c'était de faire mourir le premier-né, non seulement des animaux, mais aussi de tous les hommes, de toutes les familles. Et le pharaon allait céder, son fils allait mourir. Mais Moïse avait dit à, plutôt l'Éternel avait dit à Moïse et à Aaron, vous allez pouvoir échapper à cette plaie, à ce fléau. Il faudra prendre un agneau, vous régnerez en famille, et ce sera un agneau sans défaut, un mâle âgé d'un an, vous l'élèverez pendant plusieurs semaines, et puis vous l'immolerez, vous le tuerez, vous l'égorgerez, et là vous prendrez de son sang et vous en mettrez sur la porte de votre demeure, de la porte de votre maison. Vous en mettrez sur les deux poteaux et sur le linteau. Et puis cette nuit-là, vous mangerez de sa chair en étant prêt à partir. Vous mangerez la chair rôtie au feu avec des pains sans levain, indication que vous serez prêt à partir sans attendre que la pâte du pain lève pendant des heures. Vous serez prêt à partir, vous mangerez le pain sans levain et des herbes amères. Ces herbes étaient supposées leur rappeler leur période d'épreuve et leur souffrance. Et puis, vous mangerez, prêt à partir, vous mangerez une ceinture à vos reins, vos sandales et vos pieds, votre bâton à la main. Vous le mangerez à la hâte, c'est la Pâque de l'Éternel. Et cette nuit-là, l'Éternel avait dit qu'il allait visiter le pays et que toutes les maisons dans lesquelles il ne verrait pas ce sang, il frapperait les premiers-nés du pays d'Égypte. Et il exercerait des jugements contre tous les dieux de l'Égypte, pour montrer qu'il était vraiment le Dieu suprême, le vrai Dieu, le seul vrai Dieu. Toutes les plaies faisaient référence à des dieux qui étaient vénérés par les Égyptiens. On se souvient, si vous faites des mots croisés, Ra, c'est le dieu du soleil, Ra. Et on se rappelle qu'il avait frappé le pays avec des ténèbres. Il y avait des tas de dieux, on adorait les sauterelles, et il montrait que ces idoles n'étaient pas bonnes pour eux. Et puis, il dit au verset 13 de l'Exode 12, Exode 12, 13, « Le sang vous servira de signe sur les maisons où vous serez. Je verrai le sang, je passerai au-dessus de vous. Il n'y aura pas sur vous de fléau destructeur quand je frapperai le pays d'Égypte. » Ce petit verset, ça résume la Bible en quelque sorte. Ça avait une signification à l'époque pour leur libération, et là on va le voir, Jésus va instituer une nouvelle Pâque. Le sang servait de signe. De signe de quoi? Il montrait ce sang, il était le signe que le jugement était déjà tombé sur les personnes qui étaient à l'intérieur de cette maison. Pendant la guerre, avant la dernière guerre, il y a eu des accords de Genève sur les lois de la guerre, comme si les gens cherchaient à respecter des lois, mais il y a des choses qui peuvent être jugées comme des crimes contre l'humanité, des crimes contre l'humanité, être passibles de mort. Et une de ces lois, c'est qu'on ne bombarde pas un bâtiment sur lequel il y a une croix rouge. J'imagine que maintenant on inclut les croissants rouges, la croix rouge des musulmans. Mais c'était la même idée. Si des bombardiers voient la Croix-Rouge, ils savent que les gens ont déjà été blessés et ils doivent passer au-dessus, ils ne doivent pas bombarder. C'est un crime contre l'humanité, un crime de guerre punissable de mort. Et dans notre cas, spirituellement, on sait que tout ça, ça va être applicable à Jésus. Jésus est notre Pâque, nous dit l'apôtre Paul. Il est le sacrifice, cet agneau parfait qui est mort. Et quand j'accepte son sacrifice, c'est comme si j'acceptais de mettre du sang sur ma tête. Et lorsque le jugement viendra, Dieu saura que le jugement est déjà tombé sur ma tête par l'intermédiaire de Jésus. C'est Jésus qui a pris ma pénalité, ma punition. Il est comme un espèce de, l'analogie est mauvaise, mais comme un espèce de paratonnerre. Si j'ai le sang de Jésus sur moi, et ce sang je l'ai lorsque je m'identifie à son sacrifice, que je crois à son sacrifice. Et cette fête de la Pâque, on en a parlé l'an dernier, on a eu un pasteur, Rob Probert, d'une église de Californie, Redlands, qui est venu nous faire le repas traditionnel juif. Et c'est intéressant parce que ça nous apprend comment se passer cette fête qu'on appelle des fois la fête de Seder. Seder, ça veut simplement dire l'ordre du déroulement des événements. Il y avait des lectures qui étaient faites de ces passages dans l'Exode et dans l'Ancien Testament. C'était la Haggadah. Vous entendrez peut-être parler de gens qui vous disent « j'ai célébré la Haggadah ». Ils n'ont pas mangé des fraises d'Haggadah. C'est la fête de Seder, la fête de la Pâque juive. Et là, on voit comment Jésus va prendre ce qui existe et en faire quelque chose de plus grand encore. Il est dit que ce qu'on voit dans l'Ancien Testament, c'est l'ombre des choses à venir. Et tout ce sacrifice, tous ces milliers de litres de sang qui coulaient, 225 000 brebis, c'était pour couvrir le péché pendant un temps. Mais l'année suivante, il fallait recommencer. La lettre aux Hébreux nous explique bien que ce sang des boucs et des brebis et des veaux et des taureaux n'était qu'un remède, un sparadrap sur une blessure qui ne guérissait pas. Et il fallait changer le pansement chaque année, en quelque sorte. Mais là, Jésus allait être le sacrifice parfait. Et c'est ce qu'il institue. On se souvient que les religieux voulaient la mort de Jésus. Ils ne cherchaient pas Dieu vraiment. Ils voulaient conserver leur position de chef, leur privilège. Et c'est intéressant, ils voulaient faire mourir Jésus, mais ils attendaient un moment, ils craignaient le peuple. Gardez-vous de craindre les hommes plus que Dieu. C'est facile à faire. Là, c'est bien d'être courageux le dimanche, quand on est tous à l'église ensemble, avec pour la plupart des croyants, de dire « oui, alléluia ». Si notre paire de manches, le lundi matin, lorsqu'on se retrouve entouré de collègues non-croyants, qui nous disent « alors, qu'est-ce que tu as fait, toi, hier matin, t'es allé à la pêche ?»« Non, je suis allé avenue Aimé Martin. »« Ah, qu'est-ce que tu as foutu à Aimé Martin ?»« Mais je suis allé à l'église. »« Oh, les gars, il va à l'église !» Est-ce qu'on a le courage là de dire, mais vous feriez bien d'apprendre ce que dit la Bible et peut-être vous viendriez aussi à l'église. Je vous invite à venir la semaine prochaine. Il craignait le peuple plus que Dieu en fait. Ils étaient prêts à sacrifier et Jésus leur avait annoncé par des paraboles. Vous vous souvenez, la parabole du vigneron et la parabole des vignerons qui mettaient à mort le fils du maître. Ils savaient de quoi ils parlaient, mais tout ce qui leur importait, c'était de pouvoir mettre à mort cet homme sans se faire écharper, sans se faire attaquer, mettre en pièces par le peuple qui, pour l'instant, était favorable à Jésus. Verset 3, « Or, Satan entra dans Judas, appelé Iscariote, qui était du nombre des douze. Et Judas alla s'entendre avec les principaux sacrificateurs sur la manière de leur livrer. » Satan entra dans Judas. Ce qui veut dire que sans doute Judas n'était pas vraiment converti, bien qu'il était très proche de Jésus. Il était un des douze apôtres qui avait vécu nuit et jour pendant 3 ans, qui avait entendu tous ses enseignements, qui avait vu tous ses miracles. Et pourtant, Satan peut entrer en lui. Jean 4,4 nous explique que si Jésus est en nous, Satan ne peut pas entrer. Celui qui est en nous est plus fort que celui qui est au dehors. Et c'est lui, Judas, qui va leur proposer de trahir Jésus pour une somme d'argent. On le voit dans d'autres évangiles, Matthieu 26 et Marc 14. Ils se mettent d'accord pour trahir Jésus pour 30 pièces d'argent. Ce qui n'était pas beaucoup, en fait, pour l'ignominie que cela représentait. Satan entra dans Judas. Alors souvent, on réfléchit, on se dit, le pauvre Judas. Il n'avait pas le choix, il a été forcé. En plus, il fallait que les Écritures s'accomplissent, donc il fallait bien que quelqu'un trahisse Jésus. Toutes ces prophéties où il est dit qu'il allait être trahi pour 30 pièces d'argent. On a tous été frappés cette semaine par la catastrophe aérienne. On pensait que c'était une catastrophe, on a appris que c'était en fait un meurtre, apparemment. Jusqu'à preuve du contraire, maintenant ça semble être l'explication logique. Et on ne va pas faire des tonnes là-dessus, mais un truc qui m'a frappé, c'est que la porte ne pouvait s'ouvrir que de l'intérieur. Lorsque Dieu frappe à la porte de notre cœur, la porte ne peut s'ouvrir que de l'intérieur. On ne peut pas forcer les gens à recevoir Jésus. Et apparemment, de la même façon, si Satan est entré dans Judas, c'est que Judas lui a ouvert la porte. Il l'a laissé entrer. Certains disent que, en fait, Judas a trahi Jésus parce qu'il voulait forcer Jésus à se révéler dans sa puissance de Messie et qu'il s'était dit, là, si je le livre, là, il va faire comme Astérix et Obélix. Il va envoyer les Romains valser, ça va être un super spectacle. Ils ont voulu jouer à Pierrix et Janix. Mais ça, c'est une pure spéculation. Nulle part dans l'Écriture, il est dit. Et toute la responsabilité de Judas, le fils de perdition, montre qu'en fait, il était responsable de cette trahison. Le fait que Dieu ait su que quelqu'un allait trahir Jésus, ça ne veut pas dire que Dieu a forcé Judas à trahir Jésus. Encore une fois, c'est le problème de la prédestination, de la connaissance des choses à l'avance. Dieu, encore une fois, voit toutes les choses. Il savait que quelqu'un allait trahir Jésus. Mais le fait que ce soit tombé sur Judas, c'est parce que Judas avait Déjà, il vivait dans le péché. On sait que c'était un menteur. Il volait de l'argent. Il s'occupait. C'était le trésorier. Pauvre Sébastien. Là. Et contrairement à Sébastien, il prenait de l'argent dans la caisse pour s'offrir des choses. C'est lui qui était toujours à dire « Oh là là, c'est trop bête de gaspiller ce parfum, casser ce parfum, on aurait pu le vendre et donner l'argent aux pauvres. » Et Judas va jusqu'à s'entendre avec les chefs religieux qui veulent la mort de Jésus pour accepter et trahir pour de l'argent. Il cherche un moment favorable pour juger, pour trahir Jésus. On ne sait pas exactement pourquoi il s'appelait Iscariote. Certains pensent que ça vient de Kérod, qui était une ville en Judée, ce qui montrerait qu'il était parmi les apôtres, il aurait été le seul qui n'était pas de Galilée, ce qui créait peut-être une tension entre eux où ils ne se sentaient pas acceptés. Ça, c'est les psychologues qui vont chercher des excuses à Judas. Ou peut-être simplement, ça vient du mot « sicaire ». Sicaire, c'était des assassins terroristes qui tuaient les Romains en les assassinant à coups de couteau. On ne sait pas exactement, mais on sait que il était prêt à trahir son maître. Verset 7. Le jour des pains sans levain, où l'on devait immoler la Pâque. Donc la Pâque, ça désignait en raccourci l'agneau de la Pâque, arriva. Et Jésus envoya Pierre et Jean en disant « Allez nous préparer la Pâque afin que nous la mangions. » Ils lui dirent « Où veux-tu que nous la préparions ?» Il leur répondit « Voici, quand vous serez entrés dans la ville, un homme portant une cruche d'eau vous rencontrera. Suivez-le dans la maison où il entrera et vous direz au maître de la maison, « Le maître te dit, où est la salle où je mangerai la Pâque avec mes disciples ?» Et il vous montrera une grande chambre haute aménagée. C'est là que vous préparerez la Pâque. Ils partirent, trouvèrent les choses comme il leur avait dit et préparèrent la Pâque. Leur venu, il se mit à table et les apôtres avec lui. Il leur dit, j'ai désiré vivement manger cette Pâque avec vous avant de souffrir, car je vous le dis, je ne la mangerai plus jusqu'à ce qu'elle soit accomplie dans le royaume de Dieu. Il prit une coupe, rendit grâce et dit, prenez cette coupe et distribuez-la entre vous, car je vous le dis, je ne boirai plus désormais du fruit de la vigne jusqu'à ce que le royaume de Dieu soit venu. Ensuite, il prit du pain et après avoir rendu grâce, il le rompit et le leur donna en disant, ceci est mon corps qui est donné pour vous, faites ceci en mémoire de moi. De même, il prit la coupe après le repas et la leur donna en disant, « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang qui est répandue pour vous. Cependant, voici, celui qui me livre est à cette table avec moi. Le Fils de l'homme s'en va selon ce qui est déterminé, mais malheur à cet homme par qui il est livré. » Et ils commencèrent à se demander les uns aux autres, « Qui était celui d'entre eux qui allait faire cela ?» Jésus et ses disciples avaient grandi en célébrant la Pâque ou la fête des pains sans levain. La Pâque, c'était le premier jour de cette fête et c'était suivi de 7 jours où l'on ne mangeait que du pain sans levain. Et il devait immoler la Pâque. Normalement, c'était... Quand on regarde les autres évangiles, il y a un problème un peu de chronologie qu'on peut résoudre si on sait que la journée commençait à 18h pour les Juifs. Parce que certains disent qu'en fait, là, c'était le 14e jour du mois de Nissan et normalement, la Pâque, c'était le 15e jour du mois de Nissan. Et ça devient un peu technique, mais sachez qu'on peut réconcilier cette apparente contradiction ou cette apparente difficulté. Parce que on pense que la Pâque, c'était le lendemain. Jésus est mort le jour de la Pâque. On sait que c'était un vendredi. Et on pense qu'il est mort ce jour-là pour pleinement satisfaire le symbolisme ou la préfiguration. Et là, on a l'impression que c'est, il mange la Pâque avant qu'il ait été crucifié. Donc si on considère que c'est dans la même journée, on peut réconcilier cette difficulté de chronologie apparente. Et donc, il les envoie, encore une fois, ça rappelle un peu le petit ânon qu'il devait aller chercher. On ne sait pas si on pense que Jésus avait dû peut-être préparer les choses à l'avance, ou peut-être qu'il savait que ça allait se passer ainsi, dans sa préscience, dans l'exercice du don de connaissance, un don de l'esprit. Vous allez trouver un homme portant une cruche d'eau. On lit ça et on se dit, en fait, c'était les femmes qui allaient chercher l'eau, c'était les femmes qui portaient les cruches d'eau. Donc, pour un homme qui porte une cruche d'eau, c'est un peu comme aujourd'hui, vous verrez un homme qui porte un parapluie rose. Ça, c'était visible. Il fallait faire des préparatifs parce qu'encore une fois, c'était pas facile de trouver de l'espace. Avec 2 millions de personnes qui avaient convergé, qui utilisaient les auberges et sans doute l'hébergement à la maison avec Airbnb. Où est la salle? Il leur dit, vous trouverez, vous le suivrez. Et en fait, il voit que tout se passe ainsi. Pierre et Jean préparent la Pâque. Et on a vu, encore une fois, l'an dernier, que c'est très détaillé, c'est très précis. Il y avait, encore une fois, des éléments symboliques. L'agneau rôti, souvenir de l'agneau sacrifié pour la libération. Les herbes amères, souvenir de l'amertume de l'esclavage. Le pain sans levain. Et puis, il y avait 4 coupes de vin. Il y avait 4 coupes qui représentaient des promesses de rédemption, de rachat, d'être libéré, devenir libre. Il y a un passage dans Exode 6 qui dit « Je vous affranchirai, je vous délivrerai, je vous sauverai, je vous prendrai pour mon peuple. » Et les 4 coupes en question, la première, c'était ce qu'on appelait la coupe de la sanctification. La seconde, c'était la coupe des fléaux, la coupe de la délivrance. La troisième, c'était la coupe de la rédemption. Et puis, il y avait une coupe de louange ou coupe de restauration. On parle même d'une 5e coupe qui était la coupe d'Élie, basée sur Malachie 3:23 ou 4:5, suivant les numérotations. « Je vous enverrai Élie le prophète ». Car Élie était celui qui allait annoncer l'âge messianique. On sait qu'en fait, Élie était déjà venu, c'était Jean-Baptiste, mais cette 5e coupe, c'était une coupe qui était réservée, on n'y touchait pas. La question, c'est de savoir, dans les coupes dont il est question, verset 17, il prit une coupe et il la passe. À la fin du repas, il prit une coupe. Alors, on versait des fois le vin de ces coupes dans une coupe que l'on passait. Donc on pense que la première, c'était la coupe de la sanctification, la première. Et puis la dernière dont on parle, c'est la coupe de rachat, de rédemption, ce qui serait logique étant donné ce que Jésus va expliquer. Il leur dit qu'il ne va pas boire de cette coupe jusqu'à ce que le royaume de Dieu soit venu. Là, il parle de la fin des temps. On parle du festin de l'agneau et de l'Église, le festin de mariage pratiquement. Mais toujours est-il qu'il surprend tout le monde lorsqu'il déroge à la procédure, encore une fois, très articulée, très précise. On avait un petit livre qui nous avait été donné qui expliquait les détails. C'est très, très précis. Il y a des lectures qui doivent être faites. Il lisait les psaumes avant le psaume 119, 113 et 114, on prenait le pain et puis on lisait de 115 à 118. On n'a pas le temps de lire tout ça ce matin, mais c'était une fête très, très précise. Et Jésus va la prendre et faire éclater la procédure pour aller à l'essentiel. Tout ça, c'était une préfiguration de ce qu'il allait faire ce jour-là. Lorsqu'il dit, il rendit grâce, il rompit le pain sans levain. On utilise du matza, et à l'époque aussi, qui était un pain sans levain avec des marques dessus. Ces marques sont symboliques des blessures de Christ, parce qu'il dit, il leur donna, ceci est mon corps qui est donné pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. Ce passage a donné lieu à des interprétations assez différentes. On sait que l'Église catholique a, sur la base de ses paroles, lorsqu'il dit ceci est mon sang pendant la coupe de la Nouvelle Alliance, les catholiques pensent qu'en fait c'est un dogme. Le catholique moyen ne le sait pas nécessairement, mais en fait il se passe une transsubstantiation. Une transformation des substances, la farine qui a servi à faire le pain devient magiquement ou spirituellement, mais réellement, pas spirituellement, réellement, physiquement, le sang de Christ. Le pain devient le corps de Christ et la coupe devient le sang de Christ. Rien ne dit qu'il faille le prendre dans ce sang. Lorsque Jésus dit « Ceci est mon corps », il aurait pu montrer son propre corps. S'il avait voulu donner du sang, il aurait pu faire une piqûre dans son doigt. « Ceci est mon sang ». Non, il a voulu dire que ceci est représenté. Alors Luther et certains groupes protestants traditionnels ont dit « ça ne peut pas être... Il y a toujours le pain, il y a toujours le vin ». Entre parenthèses, les catholiques ne donnent au peuple que le pain, on ne donne pas le vin. Le vin est réservé aux prêtres et aux enfants de cœur qui le boivent en cachette après. Mais Luther, il avait dit, en fait, ça devient vraiment le pain et le corps et le sang de Christ, mais ça reste aussi le pain et le sang. Donc ce n'est pas vraiment une transformation complète, et c'est ce qu'on appelle la consubstantiation. Peu importe, il est important de réaliser que Jésus parle figurativement dans ce cas. Il a dit « je suis la porte ». Ce n'est pas pour ça qu'il avait deux gonds et une poignée. Il a dit « je suis la vigne ». Et encore une fois, l'interprétation de la Bible, elle n'est pas compliquée si on est sans a priori. Il y a des passages qui sont des passages poétiques. Lorsqu'on parle des yeux du Seigneur, il n'y a pas deux gros yeux, même si maintenant on a vu une photographie prise par le télescope Hubble d'une galaxie qui ressemble à un œil. Il y a des moments où quand on parle figurativement, on doit prendre les choses figurativement. Il a pris les jambes à son cou. Ça veut dire qu'il est resté par terre. Non, ça veut dire qu'il courait tellement vite que c'est comme si ses jambes remontaient derrière vers son cou. On comprend ça dans le langage. Mais le pire, ce sont les théologiens qui veulent, à partir d'un texte, faire des choses bizarres. Il prit du pain, ceci représente mon corps donné pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. La coupe représente la coupe de la Nouvelle Alliance. La Nouvelle Alliance par rapport à l'Ancienne Alliance. L'Ancienne Alliance, c'était essentiellement l'alliance que Dieu avait fait avec Abraham lorsqu'il était passé au milieu des animaux sacrifiés et coupés en deux. Et il y avait toujours cette idée que Dieu allait bénir si l'homme obéissait. Plutôt, c'était l'alliance faite avec Moïse. Si Dieu obéissait dans le Deutéronome, « Si vous m'obéissez, alors je vous bénirai. Si vous me désobéissez, alors je vous maudirai. » je vous ferai souffrir, je vous causerai des problèmes. Déjà dans Abraham, le sacrifice avec Abraham, l'homme était tombé dans un profond sommeil. Abraham était tombé dans un profond sommeil. Ça montrait que ce n'était pas l'homme qui participait, tout était de Dieu. Et de la même façon, cette nouvelle alliance, elle nous dit que l'homme n'est pas capable de respecter les commandements de Dieu. Les 10 commandements nous ont été donnés non pas pour que nous essayions de les suivre et de mériter des bons points, ils nous ont été donnés pour nous montrer qu'on était absolument incapable de les respecter 100%, 100% du temps. Et donc, cette nouvelle alliance, elle dit que c'est Dieu, c'est Jésus qui vient payer notre punition, mais que si nous acceptons ce sacrifice, si nous mettons notre foi en lui, si nous recevons Christ comme notre sauveur, sur la base de ce sacrifice qu'il a fait, alors Dieu va nous transformer. Dieu va nous sauver d'abord et nous sauver. C'est une nouvelle alliance. Et ça, c'est formidable. On oublie ce que c'était que le poids de l'ancienne alliance. On oublie ce que c'était que le poids de tous ces sacrifices qu'il fallait faire pour couvrir, pour mettre du sparadrap. À la fin, on ressemblait à des momies couvertes de sparadrap, mais le moi était toujours pourri à l'intérieur. On était comme des tombes blanchies de l'extérieur. Et là, Jésus va venir nous sauver à la racine. Jésus leur annonce que quelqu'un va le trahir. Là, il se demande qui était celui d'entre eux qui allait faire cela. Et puis il est dit qu'en fait, il s'éleva, verset 24, aussi parmi eux une contestation, lequel d'entre eux devait être estimé le plus grand. Jésus vient de leur dire qu'il va aller mourir, qu'ils ne vont pas le revoir, qu'il ne va plus reprendre la Pâque juive jusqu'à la fin des temps, boire du fruit de la vigne jusqu'à la fin des temps. Et là, ils sont toujours à se demander qui est le plus beau. On peut penser justement que pour la Pâque, on la prenait, c'était spécial, à demi allongé sur des fauteuils. On se penchait à droite ou à gauche, je ne sais plus, pour montrer qu'on était un homme libre. Et donc la personne la plus importante était assise à la droite de l'hôte. Là, c'était Judas. Le second, c'était de l'autre côté, c'était Jean. Et puis, il y avait le troisième de l'autre côté, quatrième, et ainsi de suite. Donc là, sans doute, dans la position, dans le positionnement, il devait se dire, mais comment ça se fait que moi, je suis au bout, alors que lui, il est à côté. Et donc, c'était un sujet qui les préoccupait sans arrêt. Savoir qui était le plus grand. Jésus leur donne encore une leçon. Il voulait leur enseigner des choses très importantes dans ce dernier repas. Et donc, c'est pour ça qu'il ne voulait pas que Judas sache où allait se passer la Sainte Cène, pour qu'on vienne l'arrêter à ce moment-là. Il avait fait la préparation un peu en secret. Et il leur dit, les rois des nations les dominent et ceux qui sont en autorité sur elles se font appeler bienfaiteurs. Nos chefs politiques aiment bien qu'on leur fasse des statues, qu'on les reconnaisse comme des grands bienfaiteurs. Et généralement, n'oubliez pas d'aller voter si vous avez une carte d'électeur aujourd'hui. Sinon, je ne vais plus entendre de plaintes. Les rois des nations les dominent. Les serviteurs du peuple, c'est très rare de nos jours. Mais que le plus grand parmi vous soit comme le plus jeune, et celui qui gouverne comme celui qui sert. Car qui est le plus grand, celui qui est à table ou celui qui sert? N'est-ce pas celui qui est à table? Non, ça c'est la logique du monde. Moi je suis au milieu de vous comme celui qui vous sert. Service des tables, service des autres. C'est une notion qui se perd. Avant, il y avait des stations-service. Maintenant, ce sont des stations d'essence. La vraie vie, c'est de servir les autres. Est-ce que vous l'avez compris ? On a tendance à vouloir être servi, mais au bout d'un moment, on en a marre de servir quelqu'un qui ne le reconnaît pas, qui n'est pas prêt lui-même à servir. C'est la logique divine. Tout le monde aime un serviteur. Par contre, ceux qui se font servir, au bout d'un moment, ils ne sont plus tellement appréciés. Et en plus, on suit le modèle de Christ. On suit la volonté de Dieu, c'est que nous soyons tous serviteurs les uns des autres. Et je vous dis ça et je me dis dans quelle mesure je suis un vrai serviteur. Est-ce que ma première réaction c'est de dire tiens, tu veux encore des frites, ou est-ce que c'est de dire j'espère qu'il va en rester pour moi? C'est des petites choses, mais c'est une attitude. Et celui qui sert, il est aimé de tous. Vous voulez être populaire? Servez les autres. Ce n'est pas en étant le plus beau, le plus fort, celui qui connaît le plus de choses, que les gens vont venir vous aimer. Vous êtes avec ceux, verset 28, qui avez persévéré avec moi dans mes épreuves. C'est pourquoi je dispose du royaume pour vous comme mon Père en a disposé pour moi, afin que vous mangiez et buviez à ma table dans mon royaume et que vous soyez assis sur des trônes pour juger les 12 tribus d'Israël. Dieu se charge d'élever ceux qui s'abaissent, mais il se charge d'abaisser ceux qui s'élèvent. C'est un thème de l'humilité récurrent dans toute la parole de Dieu, parce que c'est une vérité divine. Verset 31, Simon, Simon, pour lui rappeler ce qu'il était avant qu'il soit Pierre. Satan vous a réclamé pour vous passer au crible comme le blé. Mais j'ai prié pour toi afin que ta foi ne défaille pas, et toi, quand tu seras revenu à toi, affermis tes frères. Il vous a réclamé pour vous passer au crible. Le « vous », ça c'est un « vous » pluriel. Il s'adresse à Pierre, parce que Pierre c'est celui qui a tendance à se vanter de sa capacité à être le plus fort, sa capacité à résister aux persécutions lorsque les autres faibliront. Et quand tu seras revenu à moi, et on imagine d'abord la peur, si on vous dit que Pierre, Satan m'a réclamé, Hervé, Paul, Élodie, Satan vous a réclamé pour vous passer au crible comme le blé. Alors, encore une fois, on trouve que Judas n'est pas malin. Mais Satan montre aussi la limite de sa sagesse. C'est un être très intelligent, mais sa haine de Jésus est telle qu'il fait des trucs stupides. Pourquoi est-ce qu'il est entré dans Satan pour permettre que la croix arrive? Il savait quand même que dans la Genèse, il était prédit que sa tête serait écrasée par le Fils de l'homme, le Fils de la femme. La descendance de la femme. Il le savait, mais sa haine était telle qu'il voulait voir Jésus mourir sur la croix. Et Pierre, comme toujours, se vante. Verset 33, « Seigneur, je suis prêt à aller avec toi en prison et à la mort. » Jésus doit le reprendre et le mettre en garde. « Je te le dis, avant que le coq n'ait chanté, aujourd'hui, tu m'auras déjà renié 3 fois. » Ça a dû être un choc terrible pour Pierre, mais en même temps, il devait en douter. Encore une fois, on verra que ça va se réaliser. Il leur dit encore, « Quand je vous ai envoyé sans bourse, ni sac, ni sandales, avez-vous manqué de quelque chose ?» Ils répondirent de rien. Et maintenant, il leur dit, « Je vais plus être là. Prenez une bourse, que celui qui a une bourse la prenne, que celui qui a un sac le prenne, que celui qui n'a pas d'épée vende son vêtement et en achète une. » Car je vous l'ai dit, ce qui est écrit doit s'accomplir en moi, il a été compté parmi les malfaiteurs, et ce qui me concerne touche à sa fin. » Ils dirent, « Seigneur, voici deux épées. » Et il leur dit, « C'est assez. » C'est assez, dit la baleine. Un passage un peu qui pose question, parce qu'on se dit, Jésus nous dit de tendre l'autre joue, et là, il leur dit de prendre des épées. Les commentateurs essayent de proposer des solutions à ce dilemme apparent, cet appel à l'épée. Et la chose la plus vraisemblable, c'est que Jésus est en train de lui dire « Je ne serai plus là, vous devrez assurer votre provision et votre protection vous-même. » Parce que dès qu'ils leur disent « Ouais, on a deux épées !» Jésus leur dit « Laissez tomber. » Vous n'avez rien compris. Il n'est pas question d'aller... On sait que Pierre va prendre ça à la lettre, il va essayer de défendre Jésus en coupant l'oreille gauche, l'oreille droite de Malchus, le serviteur du grand prêtre, ce qui pousse à penser que s'il était droitier, on ne sait pas, mais s'il était droitier, c'est de dos qu'il est venu attaquer le serviteur. Et Jésus a dû recoller l'oreille du serviteur. Il leur a rappelé ce passage d'Ésaïe 53:12, il a été compté parmi les malfaiteurs. Malfaiteurs, ça veut dire que il s'est identifié non seulement avec les malfaiteurs, mais avec les malfaiteurs que nous sommes tous. Ésaïe 53, le grand passage du serviteur souffrant. On peut regarder rapidement. Il a plu à l'Éternel, verset 10, Ésaïe 53, de le briser par la souffrance. Après s'être livré en sacrifice de culpabilité, il verra une descendance et prolongera ses jours. Et la volonté de l'Éternel s'effectuera par lui. Après les tourments de son âme, il rassasiera ses regards. Par la connaissance qu'ils auront de lui, mon serviteur juste justifiera beaucoup d'hommes et se chargera de leurs fautes. C'est pourquoi je lui donnerai beaucoup d'hommes en partage. Il partagera le butin avec les puissants, parce qu'il s'est livré lui-même à la mort et qu'il a été compté parmi les coupables. Et puis les mots très importants, parce qu'il a porté le péché de beaucoup. Donc là, c'est la prophétie qu'il allait porter nos péchés. Le péché de beaucoup, c'est le péché de tous, c'est la même chose. Et qu'il a intercédé pour les coupables. Il prie pour nous. Il porte nos péchés et il continue de prier pour nous. Alléluia.